bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le podcast MLS Franco, l'édition du 29 juin 2021. Jeff, Richard et bientôt Arius avec vous pour ce podcast. Ça fait longtemps, Richard, qu'on ne s'est pas parlé MLS.
Ouais, ça fait vraiment longtemps et surtout à cause de l'Euro qui a comme un petit peu brimé notre progression, si je veux. Mais oui, ça fait vraiment longtemps et je suis content d'être ici avec toi aujourd'hui.
Ça va être vraiment plaisant. Donc, Arius devrait se greffer à nous un petit peu plus tard dans le podcast de ce soir. Et on va avoir tout un podcast. On va changer un peu la formule. D'habitude, on regarde avec vous match après match, mais on va essayer de se donner des sujets pour le restant de la saison sur lequel on veut s'arrêter un peu. Alors, ce soir, on va se parler de la machine Nani, tout un joueur avec Orlando City. On va se parler de Chicharito qui peut-être en lice déjà si tôt dans la saison pour être MVP 2021. Rien ne va plus du côté du Toronto FC. C'est pas facile pour Toronto en ce début de saison, mais c'est pas facile non plus pour l'ensemble des équipes canadiennes. Est-ce que c'est un problème d'être membre d'une équipe canadienne présentement? On sait qu'avec les matchs à l'étranger, c'est peut-être pas facile. On va parler également du nouveau venu chez le CF Montréal et comment qu'on fait pour gagner la MLS. En tout cas, qu'est-ce qui distingue les clubs? Et sans plus tarder, ben, on va partir ça. Et là, on a l'équipe entière. Jeff, Richard
salut
et Arius,
les gars, salut les gars.
Ça va bien?
Ça va super. Désolé, petit retard.
Il n'y a pas de problème.
Je suis content de vous revoir. Ça fait longtemps.
C'est ça qu'on disait justement avant que tu arrives. Ça fait avec la trêve de l'euro, là, on a pris un petit break, ouais. Mais ouais. Ça fait du bien de revenir et de jaser soccer mm-hmm. avec vous autres. Fait que ça va être plaisant. Puis on va partir ça tout de suite avec la machine Nani. Arius, toi qui as joué pro. À quel âge on atteint le pic? Hein? Parce que là, Nani, c'est 34 ans. C'est 8 matchs, ouais. 8 départs, 84 ouais. minutes par match, 6 buts. Mm-hmm. On mm-hmm. pourrait croire un jeune au sommet de son art. À quel âge un athlète au soccer pro peut atteindre son pic de performance?
C'est drôle. Justement, hier, j'avais une discussion avec un ami, GF, puis je disais, ben, un athlète de haut niveau devrait atteindre son pic entre 29 et 30 ans. Et quand tu commences à dépasser la trentaine et puis et surtout à jouer à ce niveau. Et puis quand tu vois des Nani à 34 ans, puis aujourd'hui des Ronaldo à un certain niveau, tu peux être sûr et certain que ces gars-là ont pris soin de leur corps, ont pris soin de leur physique. Parce que pour jouer à ce rythme-là, année après année, puis performer, il faut une discipline vraiment extraordinaire, Jeff.
Ils n'ont pas mangé souvent chez McDo.
On l'a vu, hein, c'était clair. Hein? Donc, Ronaldo nous a bien montré la démonstration. Lui, il ne boit pas de mm-hmm. coke, il boit de l'eau. Et puis, c'est ce qu'on essaie d'éduquer aussi auprès de nos jeunes. Écoute, un joueur de foot doit être en forme pour qu'il soit capable de performer physiquement, mentalement, psychologiquement. Donc, on dit qu'un joueur de foot, c'est un athlète complet. Donc, je ne sais pas ce que Richard en pense, mais je crois que très bien qu'il va être d'accord avec ce qu'on vient de discuter.
Tout à fait. Je pense que même outre le fait qu'un Nani soit en forme, c'est vraiment quelqu'un qui a même beaucoup de leadership au sein de son équipe et ça se transmet également du côté d'Orlando parce que ses performances... Parce qu'autrefois, un Nani, c'était plus un gars qui était très offensif. Mais là, tu vois qu'un Nani, ouais. avec le Orlando, c'est quelqu'un qui va aller vraiment récupérer le ballon, même en arrière, pour aller soutenir son attaque. Donc, c'est quelque chose qui est très impressionnant chez Nani. Et franchement, franchement, ce gars-là, du temps avec Manchester United jusqu'à Orlando, ça a été un petit peu des hauts et des bas. Mais vraiment, avec Orlando, il a vraiment trouvé son aisance, ses aises aussi. Et je crois que, encore là, une fois, Nani nous prouve toute sa classe, tout en étant un excellent vétéran pour les jeunes joueurs d'Orlando. Donc, moi, franchement, c'est que du bonbon pour cette équipe-là qui a beaucoup d'aspirations pour le titre MLS.
Parlant, ouais. Richard, justement, de Nani, qui est un vétéran, on parlait souvent, hein, dans le passé, de la MLS, qui était une ligue de retraités, ou en tout cas, qui avait l'étiquette 2. Est-ce que c'est Nani qui est bon? Parce qu'il y en a plusieurs vétérans qui sont bons. Est-ce que c'est Nani qui est bon, ou c'est le niveau de la MLS qui n'est pas encore au sommet?
Un petit peu des deux. Je pense que Nani rejoint un peu plus le niveau style MLS, mais c'est sûr qu'en Europe, ça va être un peu plus compliqué pour lui, mais outre ce petit bémol-là, je pense que Nani amène une dimension beaucoup plus grande que ce qu'on peut penser des joueurs européens qui s'exportent en MLS, parce qu'on a tendance à dire que les Européens de son âge, c'est vraiment plus une maison de retraite, ce qu'on passait autrefois, mais maintenant, c'est plus du tout la même chose. Mais Nani, un petit peu comme les autres joueurs européens, maintenant, une mentalité un peu plus conquérante, dans le sens qu'ils veulent aller en MLS pour gagner des titres, tandis que autrefois, c'était pas comme ça, mais vraiment, Nani amène cette sorte de dimension-là, cette vague de, cette soif de victoire, en fait, pour Orlando, et c'est très bon pour eux. Donc, moi, je pense que Nani est vraiment chapeau.
Arius, Richard en a parlé. Il aurait l'air de quoi, Nani, si on le place, par exemple, dans une des équipes dans les ligues top 5 en Europe, là? Est-ce qu'il aurait l'air fou, ou il pourrait se débrouiller?
Ah, il pourrait se débrouiller très bien, parce que c'est un joueur de haut niveau. C'est un joueur qui a connu une gloire incroyable quand il était à Sporting. Après, ensuite, quand il s'est fait transférer à Manchester. Bon, après, il y a eu des petits problèmes de blessures et tout. Mais veut pas, avec le Portugal, c'est un joueur qui a eu du succès aussi. Oui. Donc, il a été dans l'entourage d'un Cristiano Ronaldo, d'un Fico, donc il connaît il a connu des grands joueurs alentour de lui. Donc avec celui de Chipla que tu en as parlé Richard, ben effectivement, donc toute cette expérience là qu'il a, tout ce vécu là qu'il a, ben il a su comment s'adapter facilement dans la MLS. Et puis ben avec son expérience, ben on voit qu'il est capable de gérer aussi son énergie puis continuer à performer. Écoute, Higuaín, j'ai vu dernièrement, Higuaín parlait qu'il pensait qu'il allait arriver dans la MLS, puis avec une cigarette dans la bouche.
Ouais, c'est ça, une ligue de garage.
Une ligue de garage. Puis là, il dit, oh wow, je me rends compte que c'est plus difficile que je pensais. Donc, physiquement, on en a souvent parlé, JF, c'est une ligue qui est très demandante. Ouais. Donc, encore là, chapeau à Nani, comme Richard a dit, à 34 ans, pour pouvoir performer puis rester au plus haut niveau possible avec les jeunes joueurs qui sont dans la MLS, puis avec ce qu'on demande aussi. Le style de jeu de la MLS est complètement différent que le style européen.
Et Richard amenait un point important à Rius tantôt. Il disait que Nani était de plus en plus complet depuis son arrivée en MLS. Est-ce que c'est facile pour un joueur qui a eu, en tout cas, les meilleurs moments de sa carrière derrière lui, d'arriver ici puis de changer son style de jeu pour s'adapter puis devenir un joueur complet comme ça?
Moi, je pense que oui. Excuse-moi, Rius, mais je pense que c'est plus facile, exemple, si tu prends Nani. Si tu prends un Nani comparé à un Chano de NYCFC qui n'a pas connu une grande carrière en Europe, c'est sûr qu'un Nani a eu la formation un peu plus facile vu qu'il a été au Sporting, qu'il a connu les grandes écoles du football, tandis que Chano, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'un Nani, vu qu'il a déjà côtoyé le style anglais qui est un peu plus similaire à celle de la MLS, c'est peut-être un petit avantage comparé à certains joueurs qui sont du style, exemple, italien ou même des styles espagnols qui s'amènent en MLS, parce qu'en Espagne, c'est plus tactique, mais tandis qu'en Angleterre, c'est plus physique. Donc, déjà là, il y a un avantage aussi comparé, exactement, un avantage plus élevé comparé à certains joueurs européens. Donc, là-dessus, je crois qu'on a une certaine avance sur certains joueurs, mais encore là, la MLS, c'est totalement différent aussi de l'Angleterre parce qu'il y a les voyages et tout ça. Mais Nani a quand même un petit avantage sur certains joueurs européens qui s'amènent ici.
Un joueur également, Arius, qui est pas si pire, c'est Chicharito avec le LA Galaxy. Un autre vétéran quand même, ben, 33 ans, donc un an de moins que Nani. Mais pour Chicharito, c'est 10 matchs joués, c'est 10 départs, c'est 87 minutes par rencontre, c'est 10 buts, c'est 3 fois sur l'équipe d'étoiles de la semaine. On est-tu en train de trouver le MVP 2021 de la MLS?
Écoute, il est parti pour l'être. Il est vraiment parti pour l'être. Et au rythme qu'il est en train de produire. Et puis en même temps aussi, c'est drôle parce que j'essaie de faire le lien. Je me dis, est-ce que c'est le Manchester United qui prépare bien ses joueurs comme ça, qui fait ses joueurs restent en pleine forme? Parce que Zlatan, on parle de Chicharito. On parle de Ray Rooney qui est venu dans la MLS, qui a dominé. On parle aussi de Nani. Donc, c'est tous des joueurs qui ont passé par la Manchester United. Et puis, je pense que le fait que ces joueurs-là ont passé dans des grands clubs, ils ont une culture footballistique parlant, JF, qu'ils peuvent apprendre aux jeunes joueurs dans le vestiaire comment être un professionnel, comment gérer la pression. Comment gérer tout ce qui est à l'entour d'être un joueur de pro. Donc, on a vu que Chicharito était très conscient de l'année dernière de ses mauvaises performances. Et cette année, il est revenu encore plus fort qu'avant. Donc, il faut que tu sois un professionnel, psychologiquement parlant, prêt, mentalement, pour pouvoir revenir aussi fort puis produire à ce rythme-là. Donc, oui, effectivement, je crois que Chicharito est parti pour être le MVP de la Ligue.
Richard Arius disait justement que c'était le jour et la nuit avec sa saison dernière. C'était quoi le problème la saison dernière? C'était-tu comme la presse Zlatan?
Moi, je pense que c'est vraiment la pression parce que c'est sûr que le marché de Los Angeles, c'est un énorme marché. Donc, forcément, ouais. Vu que tu t'amènes pour remplacer Zlatan, tu dis que c'est quand même une grosse responsabilité, mais finalement, ça a été tout le contraire cette saison parce que Chicharito joue vraiment de manière très, très libre. Et c'est ça que ça prend du côté d'un attaquant parce que si tu es un attaquant de pointe qui a beaucoup de pression, c'est sûr que tu peux pas livrer la marchandise. Donc, ça joue un peu dans ta tête. Donc, forcément, ça, c'est pas bon. Mais Chicharito vraiment joue très, très bien, très, très libre aussi. Tu vois qu'il y a vraiment les clés de l'attaque parce que même Craig Vanney l'a même mentionné qu'il avait les clés pour faire ce qu'il voulait. Donc déjà là, c'est très, très bon pour laisser coéquipier pour lui. Et c'est outre l'aspect offensif que Chicharito amène, c'est surtout en général ce qu'il amène au sein de l'équipe. C'est quelqu'un qui est très positif et ça se transmet chez les joueurs. Donc forcément, les joueurs sont plus aptes à aller vers l'avant et même aller gagner des rencontres. Donc forcément, ça c'est un plus pour la formation de Greg Vanney. Et même encore là, Chicharito, on voit que c'est quelqu'un qui est très posé, très calme, comme je l'ai mentionné encore une fois. Mais aussi, il participe beaucoup au jeu. Parce que, outre un attaquant de pointe, tu dois quand même participer au niveau créatif et même au milieu du terrain. Donc, des fois, Chicharito vient plus en retrait, aller chercher le ballon, même aller contribuer ses ailiers en la personne de Samuel Grandsir et même Kevin Cabral. Donc, forcément, Chicharito est un peu plus impliqué. Mais vraiment, Chicharito, cette saison-ci, c'est magnifique parce que vraiment, tu le sens vraiment à l'aise, très calme, très serein. Je vais pas faire une prédiction, mais j'aimerais ça le voir au moins dépasser les 15 buts. Donc, il est bien parti pour ça. Donc, franchement, chapeau pour lui, chapeau pour la formation du Galaxy.
Arius, si tu permets, JF, je veux rajouter quelque chose là-dessus aussi. Et moi, je crois aussi l'arrivée de Greg Vianney a fait un grand bien à cette équipe-là, tactiquement parlant. 100%. Et Chicharito se retrouve très bien dans le système que Greg Vianney a mis en place. Et puis, ça l'a porté fruit parce qu'il ne faut pas enlever non plus le travail du coaching staff. C'est vrai que le joueur est dominant. Il peut être un joueur dominant, il peut être performant, mais peut-être que le système de l'an dernier non plus ne lui faisait pas non plus. Donc, donc Greg Vianney est arrivé à complètement changer le système, à complètement donner une nouvelle avenue à cette équipe. Puis aujourd'hui, on voit c'est une équipe qui performe comme avant.
C'est juste parce pour que ça faire du pouce.
Difficile. Vas-y, oui, Richard. Exactement.
Ouais, et juste pour faire du pouce, quand tu viens de mentionner que le style de jeu est totalement différent, moi, je prends exemple toute la carrière de Chicharito. Lui, il est passé au Real Madrid, en Allemagne, en Angleterre. C'est toutes des équipes, justement, qui aiment jouer au ballon. Donc, forcément, Chicharito, c'est quelqu'un qui est assez bon techniquement, techniquement et même tactiquement. Donc, c'est plus facile pour lui de jouer avec ce style de jeu. Tandis qu'avec Schelotto, ça a été un peu plus compliqué parce que lui, c'est quelqu'un qui est très demandant envers ses joueurs. C'est un peu plus la grinta pour lui. Donc, Vanney, c'est quelqu'un qui est très tactique. Donc, forcément, il aime la possession de balle. Donc, Chicharito, c'est quelqu'un qui aime jouer au ballon. Donc, franchement, c'est une combinaison gagnante.
Et Arius, est-ce que c'est plus facile pour ces joueurs-là qui arrivent et qui n'ont rien à prouver? Est-ce que c'est mentalement plus facile d'introduire une équipe? Je vais me prendre, par exemple, si demain matin, je m'en vais jouer je rejoins un club senior 3A, je vais être nerveux, là. Je vais être nerveux, je ne veux pas faire d'erreur, tu sais. Fait que je vais jouer un peu avec réticent. Si on me met dans la Ligue Mix demain matin, je me débrouille bien, là. Je vais jouer en confiance et je vais presque mieux jouer parce que j'aurais pas peur de faire l'erreur, j'aurais pas peur. Je sais que j'ai le niveau. Fait que, ouais. Est-ce que ça peut jouer, ça, pour les joueurs, justement, qui ont une expérience et un bagage européen qui arrive ici?
Oui et non. Ça dépend du marché aussi. Mais comme tout à l'heure Richard parlait, le marché de LA, je pense qu'il y a une pression de gagner tout de suite, de réussir tout de suite, d'avoir du succès tout de suite parce que c'est l'entertainment, c'est ça qu'on veut, puis on amène des joueurs, puis on paye le prix pour. Tandis que, par exemple, si je prends l'exemple de l'impact de Montréal dans le passé, dans le nom Impact de Montréal, qui avait amené un Divayo, par exemple, ben... un Divayo, il y avait intérêt à performer dans une ville comme Montréal, où est-ce qu'on l'amène, où est-ce qu'il y a beaucoup de culture italienne, et puis il arrive de la Bologne, un des meilleurs joueurs de la Bologne, donc il avait toute cette pression-là de la communauté montréalaise pour bien performer. Mais c'est la même chose pour Chicharito à LA, toute la communauté mexicaine est derrière cette équipe. Et puis donc, oui, les joueurs ont une certaine pression, mais le fait qu'ils ont un vécu comme Manchester United, Real Madrid, ils jouent contre 70 000 personnes, des 120 000 personnes, ils sont capables de gérer ce genre de pression-là. Ils sont payés pour ça, pour le gérer. Et par la suite, ben, il suffit juste de bien performer sur le terrain. Et puis le reste, c'est comme de l'eau, hein, c'est comme ouvrir le robinet.
Parlant de gestion de pression, Richard, un club qui va commencer à avoir beaucoup de pression, c'est Toronto FC, où rien ne va à Toronto FC. C'est 5 défaites d'affilée, c'est une victoire à leurs 10 derniers matchs. Un club qui a vu Josie Altidore complètement disparaître des parages de l'équipe. Un club qui a changé d'entraîneur-chef qui a mis quand même la main sur un entraîneur-chef de qualité, selon moi, mais malheureusement, aucun résultat.
Comme tu viens de le mentionner, justement, c'est un coach de qualité, mais je pense que c'est pas le coach typique torontois, dans le sens que Toronto, avec Vanney, c'était vraiment une équipe qui aime jouer au ballon, garder la possession. Et là, maintenant, avec Chris Armas, c'est une équipe qui aime vraiment presser, qui est très demandant physiquement, ce qui fait en sorte que les joueurs soient vraiment brûlés. Et on parle de José Altidore, justement, parce que avec José et son entraîneur, ça a été un peu plus tendu, dans le sens que lui a décidé de s'entraîner ailleurs pour pas contrevenir aux performances de l'équipe. Et justement, les blessures ont également rattrapé l'équipe torontoise, parce qu'il y a eu de nombreux blessés, justement, avec Pozuelo, Osorio, Mavinga, et la liste est longue. Donc ça a été un frein, justement, à cette équipe-là. Mais je pense que le noyau est toujours aussi solide, mais il y a encore du travail à faire, parce que c'est pas l'équipe, justement, qui aime garder le ballon. C'est une équipe qui perd beaucoup de ballons, qui crée beaucoup de revirements, qui accorde énormément de buts, parce que ça a été la défense qui a accordé, je pense, l'une des nombreuses occasions créées par aux autres équipes. Donc, déjà là, ça, c'est un bémol pour Toronto. Mais encore une fois, c'est une question de philosophie, je pense, parce que ça ne concorde pas avec ce que Toronto avait auparavant avec Craig Vanney. Donc, ça, c'est un frein à la progression de cette équipe.
Arius, si demain matin tu es propriétaire de Toronto FC, on sait que ça prend quand même un peu de temps pour instaurer quelque chose à titre d'entraîneur-chef. On laisse combien de temps à l'entraîneur du TFC avant de vraiment mettre les bases et de dire « OK, va falloir changer le coach » parce que c'est quand même tôt. Là. Il y a 10 matchs, dans le fond, de fait avec cette formation-là. C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas tout mis en place. Comme Richard disait, il y a eu beaucoup de blessures. On va être patient. Jusqu'à quel point, tu penses?
Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais ça m'envoie un message clair que le départ de Greg Vianney m'a indiqué que Toronto était déjà dans le processus, je crois, de reconstruction. Malgré qu'il y avait un Altidore, et puis Bradley et toutes les autres qui sont en fin de contrat, je pense qu'ils préparaient déjà la reconstruction. Et ce qui a pas aidé, puis je pense que c'est un problème qui dure depuis longtemps avec Altidore, Jeff, c'est que même au niveau, c'est son contrat qui est lourd à Altidore, qui fait que Toronto a de la misère à l'échanger ou à le transférer en ce moment. Donc il a eu plusieurs problèmes avec l'administration de l'équipe. C'est pas aujourd'hui que ça commence, ce problème-là.
Non, ça c'est sûr.
C'est pas avec Chris Armas. Même sur Greg Vianney, il y avait déjà des problèmes avec l'administration de l'équipe. Donc, à partir de là, si Toronto savait qu'ils avaient un problème avec Altidore, puis ils savaient quel genre de caractère qu'ils sont en train de dealer avec, ben, il aurait fallu qu'ils prennent une décision dès le début de l'année, parce qu'on savait déjà que ça aurait été difficile pour le nouveau coach de venir installer une nouvelle philosophie avec des joueurs qui ont gagné une coupe, qui se sont rendus en finale à deux reprises, qui ont été champions de la division dans les deux ou trois dernières années. Donc, c'est difficile de rentrer dans un vestiaire puis avoir le leadership que Greg Vianney avait auprès de ses leaders vétérans comme Altidore puis Bradley. Et puis vendre la salade à ces joueurs-là que aujourd'hui je veux que vous courez comme des jeunes de 17-18 ans. Quand ces gars-là, c'est pas ça qu'ils ils couraient pas comme des joueurs de 17-18 ans. Fait qu'arriver à cet âge-là, ces gars-là, c'est difficile de contrôler des vétérans dans le vestiaire qui veulent plus courir à ce rythme-là. Là. Donc, je pense que le système de jeu ne va pas avec l'effectif qu'ils ont en ce moment. Et puis, si c'est vers ce genre de système de jeu-là qu'ils veulent partir, ben, il va falloir qu'ils repensent à qu'est-ce qu'on va faire avec un Bradley, qu'est-ce qu'on va faire avec un Altidore, puis qu'est-ce qu'on va faire avec un Pozuelo, qu'est-ce qu'on va faire avec un Soteldo, parce que ces gars-là ont besoin de jouer au ballon.
Est-ce que, Richard, c'est un reset pour Toronto? Parce que c'était long pour Toronto avant de connaître le succès. C'était long avant qu'ils viennent une bonne formation. Ils ont été mauvais longtemps. Ils ont connu quelques bonnes années dernièrement, mais là, les fans doivent commencer à s'impatienter du côté du rouge et blanc et se dire « Tabarouette, on est revenu en arrière. »
L'équipe moi, d'expansion qu'on était il y a 10 ans.
Ouais, c'est ça.
Exact, ouais. Mais je serais pas prêt à dire que ce soit un reset complet parce que tu as quand même une bonne base avec des joueurs comme Rosario, Delgado, même le gardien avec Quentin Westberg, etc. Mais je pense qu'il faut enlever certaines pièces un peu plus nuisante au sein de l'équipe, dont ben, je vais pas dire des noms là, mais exemple des joueurs comme Gonzalez qui est un peu plus vieillissant, ou même Bradley qui commence un petit peu vieillir justement. Donc je pense que déjà là le fait d'enlever ces joueurs là peut-être peut amener une certaine fraîcheur au sein de l'équipe. Et t'as des jeunes joueurs qui poussent également au sein de l'équipe parce que des joueurs comme Nobel Okello, des Jagiel Marshall-Rudy, etc. C'est des joueurs qui sont capables de jouer dans ce style de jeu, même du style MLS, parce que c'est des joueurs qui ont déjà joué, ont eu des quelques matchs durant la saison dernière et même la saison dernière justement. Donc ça, je pense que c'est pas un problème au niveau du reset, mais juste enlever quelques pièces, mais peut-être pas changer l'entraîneur, je serais pas à le faire congéler tout de suite, mais juste laisser quelques temps et amener quelques petits joueurs par-ci, par-là pour compléter un peu ce qu'il veut amener au sein de l'équipe, mais je pense que ça peut être parfait après, là.
Mais Richard, je crois, PGF, je crois qu'il a perdu le vestiaire. Je crois que cet entraîneur-là a perdu le contrôle de son vestiaire en ce moment. Et puis, avec les effectifs qu'ils ont, ça fait 5 matchs de suite que tu perds. Il faut trouver la solution rapidement. Et puis, est-ce que la direction a décidé que, bon, OK, on va décider de finir la saison puis passer à autre chose? On ne le sait pas. Mais moi, je crois que... on n'est pas loin là du 8-7, GF. On n'est pas loin du 8-7.
Juste pour faire du pouce, on sait ce que tu viens de dire. Vu qu'on parle de Toronto, vu que c'est un marché qui est très, très important au sein de la Ligue, je pense que déjà les fans sont très fâchés. Donc, si les joueurs ne répondent pas aux partisans concernant les performances sportives, là, c'est sûr que la pression va se faire sentir encore plus. Donc, forcément, ça va peut-être amener un congédiement de Armas.
Ça va nous amener à notre prochain sujet, justement. Est-ce que ça peut être sans dire un délai de grâce, mais est-ce qu'on peut gagner du temps du côté de TFC avec le fait que c'est difficile pour les clubs canadiens? On sait la situation pandémique les empêche de jouer à domicile. Est-ce que c'est un problème de jouer à l'étranger, de ne pas avoir de match local pour ces trois formations canadiennes-là? Je le sais pas sincèrement. J'essaie de revirer ça depuis le début de la semaine, puis c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir et savoir est-ce que c'est vraiment difficile pour les clubs canadiens, parce que il me semble que tout le monde utilise la recette que c'est difficile pour les clubs canadiens. Et je nous ramène au premier MLS Franco. Je pense qu'on mettait sincèrement, les gars, tout le monde, on mettait Vancouver en dehors des séries au début de la saison. On mettait Montréal dans une course aux séries. C'est là qu'ils sont. Alors, il y a Toronto qui ne va pas. Mais
Toronto aussi.
C'est un problème interne. C'est ça. Mais je pense que c'est un problème interne plus que de localisation qui fait le problème à Toronto. Donc, est-ce que vraiment de ne pas jouer à domicile pour ces formations-là, c'est difficile? Et juste avant de vous lancer la balle, je regarde le CF Montréal qui a eu 16 sorties, entrées de joueurs. En tout cas, il y en a énormément qui sont partis. Il y en a beaucoup qui sont rentrés. Est-ce que ces joueurs-là ont vraiment eu un domicile? Tu sais, combien de joueurs du CF Montréal ont déjà joué au Stade Saputo? Il n'y en a pas tant que ça, là. Alors, est-ce que tous ces joueurs-là vont venir s'établir à Montréal? J'ai un doute. Fait que là, sont-ils à domicile? Sont-ils à l'étranger? J'ai de la misère avec ça.
Richard, tu veux y aller?
Ah oui. Justement, par rapport à ce que tu viens de mentionner, en fait... Oui, justement, je continue. Mais juste par rapport à ce qu'on parlait justement par rapport aux équipes canadiennes, c'est sûr que c'est très dommageable parce que je trouve que, si exemple, tu prends la situation du Canadien de Montréal comparée à celle du CF Montréal, eux ont l'opportunité de jouer à l'extérieur, mais tandis que nous, on ne peut pas. Mais pourtant, c'est les mêmes conditions. Les joueurs sont vaccinés, sont checkés au moins 4 fois tous les jours même. Mais vraiment, pour revenir sur l'aspect plus footballistique, je trouve que c'est dommage pour le CF Montréal parce que c'est sûr que tu aimerais ça jouer devant tes partisans. Puis surtout le fait que si tu compares aux équipes américaines, eux, ils ont la chance d'avoir les infrastructures pour, mais également ils peuvent retourner chez eux, leur famille sereinement et avoir récupéré un peu plus vite, tandis que du côté montréalais, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que tu voyages tout le temps, alors que du côté des Américains, tu fais juste des petits voyagements puis c'est vraiment plus rapide pour eux de bien s'établir, alors que Montréal, même si ça fait 1 an qu'ils sont quand même à la Floride, c'est très dur selon moi, je trouve. Donc, déjà là, c'est un désavantage du côté des équipes canadiennes comparé aux Américains.
Jeff, c'est très difficile. Ouais. Moi, je vais approcher de cette façon-là. C'est très difficile mentalement, psychologiquement pour ces joueurs-là. Parce que premièrement, ils ne sont pas à la maison. Ils ne sont pas tous avec leur famille. Ils n'ont pas tous une vie, disons, normale, comme toutes les autres équipes dans la ligue. Le gars, quand il a fini de pratiquer, ben, il rentre à l'hôtel, puis il voit encore son coéquipier. Il voit encore les gars, là. Donc, à un moment donné, c'est bien beau. C'est vrai qu'on est une famille, une équipe de foot. C'est bien beau que c'est vrai que c'est notre boulot. On travaille ensemble tout le temps. Mais à un moment donné, le gars aussi a besoin de décrocher un peu là, pour qu'il voit autre chose. Donc, en ce moment, les préparations mentales sont 2 fois plus difficiles pour les joueurs des équipes canadiennes que les équipes américaines. Donc, moi, j'arrête juste là-dessus. Comment que c'est important une préparation mentale pour un joueur de foot? C'est très important une préparation mentale pour pouvoir bien performer. Puis jusqu'à là, je ne veux pas donner des excuses à l'Impact, mais chapeau à l'Impact qui est encore dans la course, qui est encore en train de compétitionner malgré les circonstances et puis ceux qui sont en train de vivre. Puis il ferait chapeau au staff aussi parce que veut pas, il y a un désavantage d'être toujours à l'étranger puis de ne pas jouer devant tes fans, de ne pas connaître, de ne pas être dans ton milieu puis dans ton environnement.
Parce que si je regarde, là, quand tu dis qu'il y a vraiment une différence, New England, par exemple, à domicile est 5-0-0. Orlando, et tu sais, trois victoires. Le Red Bull de New York, 4 victoires à la maison.
Voilà.
À l'étranger, il n'y a pas un club qui a plus que 3 victoires présentement. Donc, effectivement, il doit y avoir, Richard, un certain avantage à jouer à la maison.
Ouais, vraiment. Puis je pense que quand tu joues à la maison, c'est sûr que tu trouves plus t'es plus sous tes repères. T'es vraiment comme à domicile, t'es chez toi. Donc forcément, c'est plus facile. Tandis que du côté du CF Montréal, même Toronto, même Vancouver, eux, ils doivent jouer dans des terrains plus qui n'appartiennent pas à leur propre équipe. Donc forcément, tu connais pas le style, tu sais pas comment le terrain va réagir par rapport aux joueurs. Donc forcément, c'est plus compliqué. Et il faut que tu t'acclimates un peu plus rapidement que certaines équipes parce que justement avec les conditions, c'est pas pareil. À exemple Vancouver à Salt Lake, c'est pas pareil du tout, les conditions, même si c'est quand même assez nuageux là-bas, mais forcément c'est en altitude, donc forcément c'est très difficile. Même la chaleur, c'est sûr que si tu regardes du côté montréalais face à Miami, Montréal, c'est vrai qu'il fait chaud, mais c'est pas la même chaleur comparée
à Miami.
C'est
pas la même chaleur du tout.
Non, pas du tout. Donc forcément, ça c'est très dommageable pour les joueurs du CF Montréal. Donc déjà là, les conditions, ça fait très, très mal pour les joueurs, mais en même temps, si tu es un professionnel, donc forcément, tu dois t'adapter, mais c'est sûr que quand tu joues à la maison, c'est beaucoup plus facile pour toi de trouver tes repères comparés à l'extérieur. Donc, ça, c'est très dommageable pour eux.
Et là, Arius, est-ce qu'on rentre dans une strate qui va être encore plus difficile pour le CF Montréal? Parce que là, le CF Montréal jouait au domicile au Drive Pink de Miami. Là, c'est la Gold Cup. Fait que là, le match de samedi est présenté à domicile, au domicile du Red Bull, si je ne me trompe pas. Le match de la semaine prochaine est à domicile, mais du côté du stade d'Orlando City. Donc, non seulement on n'est pas à la maison, mais là, aujourd'hui, en plus, l'équipe s'entraînait ailleurs parce que le terrain n'était pas disponible pour la Gold Cup. Fait qu'on s'entraînait, je pense, sur le terrain de Real Madrid, l'Académie du Real, je pense, si je ne me trompe pas. Ça devient encore plus compliqué, là.
C'est très complexe et on n'est pas dans les souliers du membre et les staffs du CF de Montréal, mais c'est très complexe dans tous les sens. Premièrement, il faut que tu attends toujours l'accord des autres pour aller s'entraîner à un endroit. Il faut toujours que tu attends que... Donc, tu deviens toujours le deuxième où il n'y a pas de priorité. Donc, le CF de Montréal, l'année dernière... Je pense que c'était égal à tout le monde puisqu'il n'y avait pas de fans. Il y avait une bulle, exactement.
Tout le monde
cette année, c'est complètement différent. Maintenant, imagine-toi, juste pense à cette situation-là. C'est très banal, mais juste pense à cette situation-là. Le gardien de but, là, très derrière lui, là, qui fait du bruit constamment et puis qui chante dans ses oreilles et tout ça, qui joue dans ça. Ça aide l'équipe. Je veux pas. Mais ça
les sort de leur match.
Voilà, je veux pas. Il y a un impact sur le gardien quand il arrive du côté de Ultra, le gardien adverse. Tu comprends? Puis veux pas, il y a un impact sur notre gardien quand il joue à la maison, quand il sent le Ultra derrière lui, là aussi. Tu comprends? Donc, les émotions, justement, que ces joueurs-là sont en train de vivre en ce moment, GF, je pourrais te dire que c'est pas tout le temps des émotions super positives parce que justement les situations qu'ils sont en train de vivre, des fois ça doit être très négatif, puis ça doit pas être très positif, puis ça doit pas être très stimulant aussi pour le joueur de vouloir continuer à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Parce que même Samuel Piet en a parlé l'année dernière, c'était très difficile pour lui, surtout sa femme venait d'avoir un petit bébé, puis il pouvait même pas être avec sa petite famille. Donc juste ça, mentalement, peut nuire à la performance du joueur.
Et là, on a, c'est ça, Rudy Camacho aujourd'hui qui, en conférence de presse, là, a dit on est tanné, là, on ne comprend plus ce qui se passe, on veut retourner à la maison, on ne sait pas
quand. Même Laurent Simon l'a même mentionné aussi.
C'est ça, exactement.
Mais ça n'a plus d'allure, Donc, je sais très bien qu'on a une culture hockey, mais à un moment donné, là, on va parler un peu de politique, on sort un peu de... Mais il va falloir que... qu'on prenne une décision rapide pour les CF de Montréal.
Ben, c'est parce que, tu sais, ce qui est bon pour Minou doit être bon pour Pitou. Fait que si on le fait pour le Canadien, c'est tout ou pas en tout. Tu sais, puis je comprends qu'il y a beaucoup de fans de hockey, je comprends que c'est notre sport national, mais voilà. À un moment donné, on peut pas gouverner avec les émotions. Faut gouverner sur une certaine base qui va te donner de la crédibilité. Et le protocole, d'après moi, puis c'est pas parce que je suis fan de soccer, mais quand je regarde tout ça, moi, je pense que le protocole de la MLS est plus sérieux que celui de la LNH. Si on regarde la saison dernière, il y a eu beaucoup moins d'arrêts en MLS avec la bulle et de la façon qu'ils l'ont. Souvenez-vous, dans la LNH, on a annulé des matchs en tabarouette, puis on a repoussé, puis regarde, encore aujourd'hui, l'entraîneur-chef du Canadien n'est pas là présentement. Fait que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, le protocole est rigoureux, il faut le reconnaître. Donc, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'on attend pour le laisser passer. Si on le donne aux équipes de hockey, là, puis, tu sais, c'est le même gouvernement qui prend la même décision, donc
c'est ça.
Pourquoi pas les laisser passer? Fait que c'est un peu ridicule. Et d'un autre côté, est-ce que la MLS aurait pu accommoder un peu les équipes canadiennes en faisant jouer les matchs canadiens sur une séquence? Par exemple, de dire, regarde, on va revenir de la pause, ça va être Montréal-Toronto deux fois aller-retour, mettons, Montréal-Vancouver deux fois aller-retour. Comme ça, on aurait grugé un peu dans le temps et on aurait peut-être avancé là, vers une fenêtre où on va être accessible pour voyager.
Ouais, je ne sais pas comment ça fonctionne, leur politique, Jeff, parce que, je vais donner un exemple, j'ai un jeune qui arrive de la Floride, il a dû se faire confiner, il doit se faire confiner pendant 2 ou 3 jours. Les Canadiens de Montréal arrivent de la Floride, 2 jours après, ils jouent sur la glace. Donc, essaye de me faire comprendre, là, c'est quoi la différence entre celui qui arrive de la Floride, qui n'est pas un joueur de hockey, mais c'est un citoyen comme ça. Puis celui qui joue au hockey professionnel, puis il arrive, bon, OK, la différence, peut-être qu'il est peut-être mieux encadré, il y a des médecins, et puis on lui fait faire des tests à chaque toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça n'a pas d'allure.
Mais tu sais, l'année passée, moi, ça, je pouvais le prendre comme un peu défaite du gouvernement, tu sais, de dire, faut la quarantaine, faut les tests, le protocole. Mais là, maintenant qu'ils sont tous double vaccinés, Je comprends pas de quoi
on est supposé être protégé, non? On est supposé être protégé.
C'est ça, exactement. Si vous croyez au vaccin, là, c'est la preuve que ça va marcher.
Il n'y a plus de raison de ne pas accepter les joueurs parce que franchement, si tu regardes même du côté de la NBA, les joueurs traversent le pays de gauche à droite, mais ils sont également vaccinés. Donc forcément, je pense que eux, ils ont mieux géré la crise sanitaire que comparé peut-être à la NHL. C'est pas une attaque que je fais, mais je trouve qu'on devrait au moins laisser la chance au CF Montréal, et même aux équipes canadiennes, de pouvoir jouer devant leurs partisans, parce que c'est sûr, ça fait comme un an, peut-être un an et demi presque, qu'on n'a pas vu leur famille, même pas vu leurs partisans. Donc, ça fait mal, parce que même toi, Arius, qui a connu la carrière professionnelle, t'aimerais ça jouer devant tes partisans, devant ta famille, parce que c'est quand même eux. C'est eux qui t'ont. Tu les rends fiers au final. Tu les rends fiers. C'est parce ça.
Tu parles de ça, Richard, ça me donne la chair de poule, ce que tu viens de dire. C'est que l'émotion que ça te donne quand tu sais que tu rentres dans le terrain puis tu es devant tes partisans, JF. Devant ta famille aussi. Cette émotion-là, elle est inexplicable. Les gens ne peuvent pas le comprendre s'ils ne le vivent pas, ce genre d'émotion-là. Donc.
Le but de Cameron Porter est pas le même s'il est marqué dans un stade vide à Miami.
Merci, exactement ça.
C'est vraiment, je pense que ça. On va revenir au CF de Montréal. Eux qui ont joué en fin de semaine un match que j'ai détesté. match qui s'est mal terminé. Rommel Kyoto, qui, selon moi, a fait 2 bourdes majeures dans le match. Soit de ne pas avoir closé le match, ou ce qui aurait pu, en tout cas, le mettre à 2-0. Je pense que ça aurait mis bien le CF Montréal. Et en fin de rencontre, ça y tentait plus. On va regarder.
Je sais pas si c'est parce que ça lui tentait plus ou il pouvait plus.
Ouais, c'est ça. L'enjeu, elle est là. On va aller voir la séquence en fin de match. It's easy for Pierre. Oh, Kyoto running into trouble. Jack Meyer, Zimmerman inside. Leal outside needs a good cross. That came off Leal, needs to keep it in. Meyer again to cross. Back post! It's there! À deux reprises, d'après moi, il peut récupérer ce ballon-là. Ou en tout cas faire l'effort de.
JF, inacceptable dans ton tiers défensif. Tu es un ailier gauche. Tu perds ta balle. Tu ne reviens pas pour défendre. Inacceptable. Tu as été le MVP de cette équipe l'an dernier. Tu as été un leader positif, je crois, dans le vestiaire. Inacceptable. Surtout que le CF de Montréal avait besoin de ce point-là, avait besoin de cette victoire-là. Inacceptable. C'est juste ça que je peux dire de Kyoto sur cette situation-là, sur cette action-là.
On va aller écouter, juste avant Richard de donner la parole, j'ai posé la question à Wilfried Nancy après le match, voir comment il avait trouvé l'entrée de Kyoto. On va écouter.
Oui.
À Rommel, il est revenu. Maintenant, c'est à lui de retrouver son physique, parce qu'aujourd'hui, on lui a donné 30 minutes. Il manquait de jus. Donc, encore une fois, c'est normal parce qu'il s'arrêtait pendant pas mal de temps, mais on avait besoin de lui pour ce match-là.
Il n'y a pas l'air.
Hop,
c'est correct. Richard, il n'y a pas l'air content.
Non, pas du tout. Tu vois son body language qui est un petit peu défaitiste, peut-être un peu même en colère. Puis je partage la même opinion qu'Arius, comme quoi tu devrais au moins garder le ballon, même la dégager en ligne de touche, juste pour comme écouler le temps le plus rapidement possible.
Voilà.
Mais
voilà.
C'est ça, mais il ne l'a pas fait. Mais tu vois, même quand l'action rejoue, tu vois quand Piet remet le ballon. Au milieu de terrain, t'as Kyoto qui était là, qui regarde un peu plus, mais déjà, il aurait pu au moins mettre le pied sur le défenseur, mais au moins faire quelque chose, mais ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'était très dommageable, je trouve. Même son occasion ratée qui aurait pu serrer le match, selon moi, ça a été l'une des graves erreurs de cette rencontre, parce que s'il avait marqué ce but-là, là, je pense qu'on aurait comme park de bus, comme on dit dans le bon jargon. Donc s'il avait inscrit, je pense qu'on aurait eu cherché les 3 points, mais c'est comme une défaite, parce qu'on aurait pu la gagner, franchement. Parce qu'un jeu n'a pas montré, a eu quelques occasions de marquer, mais n'a pas été très concret selon moi. Donc, je pense qu'on aurait pu aller chercher les 3 points, mais ça n'a pas été le cas. Donc, ça fait très mal.
Mais Jeff, moi, j'ai un peu de problème avec un peu la réponse qu'il a donnée. Parce que si tu sais que ton joueur physiquement n'est pas prêt, oui, tu avais besoin de lui peut-être pour 30 minutes dans le match. Mais, mon Dieu! Si tu sais que tu avais besoin de lui pour 30 minutes, donne-lui 20, parce que tu sais, dans les 30 minutes, il risque de te faire mal. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu sais que physiquement, il n'est pas prêt, puis il était arrêté pendant longtemps, puis les gars, ils se sont entraînés pendant longtemps, puis... En tout cas, écoute, il a été déçu de Kyoto, mais c'est au staff technique à gérer ces genres de situations-là.
Puis, tu sais, moi, la question que je me pose, c'est que le match, il est 1-0. Quand tu dis, là, rentre-le pour 20 minutes, le CF Montréal menait ce match-là 1-0.
1-0.
Oui, il commençait à y avoir une certaine pression du côté de Nashville, mais sincèrement, j'ai pas tant senti le CF Montréal dans le trouble. J'ai pas tant senti que fallait absolument qu'on mette un but. Donc, est-ce qu'il y avait une urgence d'entrer Rommel Kyoto dans cette rencontre-là? Je pense qu'un 20 minutes aurait été suffisant pour qu'il reprenne ses jambes, qu'il reprenne ses repères. On cherchait pas à marquer un but. On était déjà en avance dans ce match-là. Donc, pourquoi l'avoir entré si rapidement, si tôt dans le match?
Mais il a dit qu'on avait besoin de lui. Donc, à quel point qu'ils avaient vraiment besoin de lui? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il a dit qu'on avait besoin de lui. Donc, tu mènes 1-0. Tu as besoin de lui pour quoi?
C'est ça, c'est pas comme donner... un défenseur qui veut.
C'est pas comme un défenseur qui va te permettre. Voilà, exactement, exactement. Donc, tu dis, OK, OK, tu as besoin de lui, c'est ton attaquant numéro un, supposément. Je vois pas pourquoi tu as besoin de lui. Il reste 30 minutes dans le match, tu mènes 1-0, puis il te met dans le trou.
Moi, je l'aurais pas fait jouer. Moi, je l'aurais pas fait jouer. Franchement, je l'aurais fait jouer peut-être au prochain match parce que c'est sûr que quand tu reviens blessure, et que tu mènes 1-0, tu veux pas le faire jouer, tu veux pas le faire brûler tout de suite parce que tu veux comme préserver l'avance, puis tu vois que Nashville avait le momentum durant la rencontre. Donc, moi, j'aurais fait jouer pour le prochain match, puis j'aurais amené un peu plus un côté défensif, limite à faire rentrer un Martial ou même un défenseur pour préserver l'avance, mais ça n'a pas été le cas. Mais peut-être une erreur tactique de la part de Nancy, mais je pense que, outre cette erreur-là, Kyoto aurait pu faire mieux au niveau défensif, mais je vais lui donner le bénéfice du doute, mais en même temps, il aurait pu faire mieux, mais bon, c'est à voir. Hein.
Mais c'est une équipe qui est juste pas fort dans les ballons aériens. Donc, ils doivent éviter de se retrouver dans des situations où est-ce que en fin de match, tu es déjà pas fort dans les ballons aériens. Crois-moi que tu n'as pas les jambes pour sauter non plus pour un ballon.
Mm-hmm. Non, c'est clair. Et avant le match, dans le podcast de l'avant-match, on avait posé la question à Wilfried Nancy. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Qu'est-ce qu'il faut surveiller de Nashville? Et il l'avait dit, faut pas donner le centre. Faut pas concéder des centres parce que c'est une équipe qui centre énormément, qui sont très forts sur le jeu aérien. Donc, on veut pas donner le centre. Alors, c'était simple, comme disait Richard tantôt. Kyoto avait juste à le sortir en touche, le problème était réglé. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait les forcer à aller sur le corridor de touche et sortir ce ballon-là. Et il aurait pu le kicker à peu près n'importe où sur le terrain pour en plus, parce que là, on était dans le temps ajouté, il restait des grenailles. Donc, on aurait pu égrener ce temps-là.
En plus, il a perdu le ballon sur la ligne de touche.
Le
ballon, il était quasiment sur la ligne de touche qu'il a perdu le ballon. Donc, c'est inacceptable. À ce niveau-là, c'est inacceptable, Jeff. Je l'ai dit, je dis ça à mes joueurs. Imagine Kyoto, je serais très frustré contre un Kyoto à ce niveau-là, puis que tu perds le ballon à ce niveau-là, puis tu fais mal à ton équipe comme ça. Inacceptable.
Puis en même temps, juste pour revenir là-dessus sur les centres du côté de Nashville, c'est une équipe aussi qui est très forte physiquement. Et comparé au CF Montréal, qui est un petit peu plus frêle, entre parenthèses, avec des joueurs comme Camacho, qui est peut-être pas le gars le plus solide physiquement, mais qui est quand même bon défensivement avec son placement. Donc forcément, ça fait mal. Mais aussi, Nashville, on doit leur donner quand même crédit, parce que c'est sûr que durant la rencontre, ça a été une rencontre assez ouverte, mais Nashville a pas lâché. Donc, chapeau à eux pour avoir revenu de l'arrière. Mais encore une fois, le CF Montréal, c'est toujours c'est leur histoire de leur vie, laisser des avances... pas des avances
en fin de match,
sur coup de pied arrêté, que ce soit sur corner, sur coup franc, même sur une action en continu. Donc forcément, ça, c'est quelque chose qui est à retravailler, mais c'est dommage. Franchement, c'est dommage. J'aurais aimé ça avoir les trois points, mais écoutez, ça fait mal.
Tu sais, moi, j'ai toujours de la difficulté avec le fait qu'on a de la misère, puis que, tu sais, il faut toujours se battre, on dirait, pour aller chercher des points. C'est rare que le CF Montréal entame un match, puis qu'on dit, garde. Ça, là, c'est trois points dans la poche, on va gagner, puis tout va bien aller. Puis, j'ai l'impression que à toutes les fois qu'on a une avance, il faudrait que le match se termine parce que on sera pas capable de la maintenir, cette avance-là. Je regardais quand l'officiel a annoncé qu'il y avait 7 minutes de temps d'ajouter. Là, la folie s'est emparée des réseaux sociaux, mais pourquoi 7 minutes? Ça aurait dû être 5, ça aurait dû être 3. Puis, tu sais, ça veut dire que t'as zéro confiance que ton club est capable de tenir un avance. Ça me fait peur. Puis, le problème, d'après moi, du CF Montréal, il n'est pas défensif, il n'est pas derrière. Je pense qu'on est stable. Depuis le début de la saison avec nos trois défenseurs en charnière centrale, le duo de gardien qui est quand même bien. Fait que le problème, selon moi, il est à l'avant du terrain chez le CF Montréal. Là, on signe un nouveau défenseur, puis on avait donc bien besoin parce qu'on vient de perdre Binks. Binks n'a pas joué un match cette saison. À quel point qu'on a besoin de remplacer Binks alors que je pense que Wilfried Nancy, c'est clair qu'il va jouer à trois défenseurs, advienne que pourra. On veut, chez Olivier Renard, recruter, former, vendre des joueurs. Donc, on a des Maciel qui sont, pas Maciel, mais des Watermen qui sont là. On a des Bassong qui sont là. On a-tu besoin d'aller chercher un autre projet ou on est mieux d'aller chercher un peu de stabilité, Arius?
Jeff, selon moi, là, en ce moment, pour aller chercher de la stabilité, il faut avoir de la constance en avant du but. La meilleure défense, c'est l'attaque. On l'a souvent entendu, ça. La meilleure défense,
surtout
c'est l'attaque.
Surtout en MLS.
Mm-hmm. Surtout en MLS. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, si tu as de la misère à marquer des buts, tu vas perdre des matchs. Tu vas en perdre des matchs en fin de match aussi. Surtout quand tu as une avance de 1-0. Puis là, quand tu as une avance de 1-0, la seule chose que tu fais, c'est te défendre. Parce que tu as la misère à marquer des buts quand tu marques un but. Fait, quand tu marques un but, tu te mets en phase défensive. Mais là, tu vas subir tout le match. Depuis le début de l'année, moi, je crois en ce moment, puis je le vois, je ne sais pas selon vous, qu'est-ce que vous en pensez. En ce moment, nos défenseurs sont surtaxés.
Oui.
Ils sont surtaxés.
Par un schéma taxé.
Par un schéma tactique taxé. Ils sont surtaxés. Donc,
parce que moi, Arius, 30 secondes, vas-y. Dis-moi si je me trompe. Mm-hmm. Puis, tu sais, t'as entraîné au soccer. Pour moi, personnellement, le 3-5-2, c'est un schéma tactique de transition. Tu te fais marquer un but, tu veux revenir dans le match, tu passes en 3-5-2. Un coup que tu as réussi à marquer ton but, tu reviens en 4-3-3, 4-2-3-1 ou 4-4-2. Mais le 3-5-2, pour moi, est un schéma tactique de rattrapage. Si tu as besoin de marquer un but ou encore si tu veux t'imposer très tôt dans un match que tu sais qu'il va être difficile, tu veux chercher à marquer dans les premières minutes de jeu, tu vas entrer en 3-5-2, tu vas dire au gars « Allez-y, on marque, puis après, on reviendra dans un schéma avec un bas lock un petit peu plus bas. » Mais si tu joues toujours à trois défenseurs et qu'au milieu, on n'est pas efficace, c'est sûr que tu surtaxes ta défensive.
C'est sûr que tu surtaxes ta défensive. Puis aussi, les schémas tactiques sont très relationnels, OK? Mais la seule chose, c'est que quand tu as une équipe, 3-5-2 pour moi, là, moi, je l'ai joué, ça, ce 3-5-2. Puis l'entraîneur qui me faisait jouer le 3-5-2, JF, il me disait, si physiquement, on n'est pas en forme, les gars, ça va être difficile de jouer 3-5-2.
Mm-hmm. Principalement des deux latéraux, j'imagine.
Mm-hmm. En ce moment, je ne sais pas si le CF de Montréal est une équipe en pleine forme physique, selon ce qu'ils sont en train de vivre là-bas, en Floride, whatever, des blessures ou quoi que ce soit. On n'est pas vraiment avec le staff et dans le milieu pour savoir. Mais moi, je regarde cette équipe jouer. Si tu n'es pas capable de finir tes fins de match, c'est parce que physiquement, il manque quelque chose. Physiquement, il manque quelque chose. Le foot, c'est 85% physique. C'est juste du physique. C'est vraiment ça. Donc, le reste du temps, c'est de la créativité. C'est ceux qui vont faire la différence, les grands joueurs qui vont faire la différence. Puis après ça, le reste, c'est passe et bouge. Puis tactiquement, on défend. Donc, à partir de là, le CF de Montréal doit régler ce problème-là, comme Richard a dit, parce que ça fait des années que ça existe, ce problème-là, chez le CF de Montréal. Ils ne sont pas capables de gérer leur avance. Puis même quand c'est 2-0, même quand c'est 3-0, on ne sait pas comment que le match va finir.
Mais c'est une question mentale au final, parce que c'est vraiment là-dedans que ça se passe. Parce que c'est le cerveau qui amène, qui fait tout le travail. Parce que c'est sûr qu'au niveau tactique, tu peux être bon, mais si tu te fais déconcentrer une instant de seconde, c'est fini, puis tu te fais ouvrir après.
C'est parce que physiquement, ils ne sont pas capables de garder le mental.
C'est ça, exactement.
Quand ton physique est atteint, le mental va atteindre tout de suite.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça qui arrive. Puis moi, j'ai l'impression en ce moment, il y a beaucoup de joueurs de l'Impact qu'ils ne sont pas capables de finir les fins de match. Le CF de Montréal, ils ne sont pas capables de finir les fins de match.
C'est ça. Est-ce que c'est l'erreur? Est-ce que c'est le préparateur physique de cette formation-là? Est-ce que c'est les... Parce que là, on peut se tirer à balle à bien du monde, mais ça peut être le préparateur physique, ça peut être le préparateur, le psychologue sportif, ça peut être, tu sais, parce que l'état d'esprit de jouer, ça peut être plein de facteurs qui fait qu'on on termine pas les matchs. Mais quand je regarde tout ça froidement de l'extérieur, l'Impact de Montréal est une des formations les plus jeunes de la MLS. Beaucoup de jeunes joueurs au sein de la formation. c'est pas normal qu'on n'aille pas 90 minutes dans les jambes. C'est pas normal avec la qualité de la jeunesse qu'on a puis le nombre de jeunes joueurs qu'on manque de jus comme ça en fin de match. Quand on voit un Nani, un Chicharito être capable de jouer, tantôt je donnais les statistiques, c'est 85-87 minutes par match. Fait que c'est presque le match au complet. Mm-hmm. Les gars, ils ont 33-34 ans puis ils le font. Fait que j'ai de la misère à me comprendre qu'à 18, 19, 20 ans, on ne soit pas capable de le courir.
Non, c'est ça. Puis je pense que...
JF, si je te pose la question, excuse-moi Richard, si je te pose la question,
merci.
C'est quoi la moyenne de minutes de la numéro 1 du CF de Montréal?
Attends que j'aille voir ça, donne-moi 30 secondes.
Parce qu'en ce moment, le gars qui joue, les joueurs qui jouent le plus, c'est les défenseurs.
Ouais, c'est ça.
Mm-hmm.
Parce que là, présentement...
Les joueurs qui jouent le plus, c'est les défenseurs.
Et si je regarde les cotes, SofaScore, note les joueurs. Le meilleur joueur présentement du CF Montréal, c'est Georgi Mihailovic. C'est lui qui a la meilleure cote. Et tu vois, il joue 81 minutes par match. Mais sinon... C'est, bien sûr, en premier, là, on va s'entendre, c'est le gardien de but. Mais après ça, effectivement, Rius, t'as pas tort, c'est les défenseurs qui jouent le plus.
Qui jouent le plus!
Parce que là, après ça, on tombe à Waterman, Camacho, Struna, Zachary Broguillard, puis là, ben, on va tomber à Piet et Wanyama.
À partir de là, là, t'as un problème, mon ami. Si ton attaquant numéro 1, t'es pas capable de le savoir c'est qui, puis il est pas parce capable de là... finir les matchs.
Non, c'est ça, exactement.
On va marquer comment qu'on va marquer des buts?
On peut pas marquer de buts.
On peut pas marquer de buts.
Non, c'est ça.
Il faut marquer des buts pour gagner des matchs au soccer.
c'est de là que je comprends pas. Le move d'aller chercher, signer un jeune défenseur. Je comprends qu'il faut remplacer Binks, puis c'est bien le poste pour poste de dire on en a perdu un, on va le remplacer, mais c'est ça le besoin de l'impact. Du CF Montréal, moi je pense que le CF Montréal a besoin d'une étincelle, a besoin d'un joueur, puis tu sais, c'est drôle parce que là, présentement, c'est encore plus vrai parce que le Canadien de Montréal a le droit de jouer à la maison et le CF Montréal n'a pas le droit. On sent la frustration des fans du CF Montréal. Avec raison, je ne dis pas qu'on a tort, je pense qu'on a raison d'être fâché. Mais là, ça relance tout le temps le débat de personne n'en parle puis il n'y a pas de couverture médiatique. Je suis un peu tanné de ce débat-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui parle du CF Montréal. Puis c'est peut-être pas dans les médias traditionnels, mais c'est un autre débat parce que je suis pas sûr que les gens qui suivent le soccer écoutent nécessairement les médias traditionnels. Mais tout ça pour dire que le CF Montréal, à un moment donné, doit être maître de son destin. Si tu veux de la couverture, là, faut que tu aies quelque chose à couvrir. Le CF Montréal cette année est zéro excitant à regarder. Tu sais, on vient de le dire, ils finissent
là,
pas les matchs. On n'a pas. On a 3 DP, mais en fait, c'est une opération comptable pour réussir à. On a nommé des DP pour libérer de l'argent, tu sais, sa masse salariale. Puis c'est correct, tu sais. Mais. Le CF Montréal, dans ce cas-là, ne peut pas se plaindre d'un manque de couverture. Ne peut pas se plaindre que les gens ne les supportent pas ou qu'ils ne sont pas là ou qu'ils sont fâchés contre un rebranding quand tu n'as rien à offrir à ton public. Puis, tu sais, je voulais qu'on finisse là-dessus sur comment gagner en MLS. Quand je regarde là, les équipes qui sont en tête présentement, on a quoi? On a Orlando, on a le LA Galaxy.
LA Galaxy.
J'avais le classement Seattle qui font très bien.
New England.
Ben oui, ça c'est sûr. C'est les autres qui vont
gagner.
C'est mes Rebs, ils vont gagner. Mais tu sais, il y a peut-être là, le Sporting Kansas City qui est un peu. Monter différemment, mais règle générale, si on regarde qu'est-ce qui fait que les équipes gagnent, je pense que c'est cet équilibre-là entre l'expérience et la jeunesse. Fait que Je comprends que du côté du CF Montréal, on veut le recruter, on veut le former, on veut le vendre. Mais d'après moi, ça manque un peu d'expérience, de gars qui... Tu sais, on en parlait tantôt. Si je prends Nani qui a joué à Lazio, à Valencia, à Man U, Chicharitos, lui, a passé par Sevilla, West Ham, le Bayern, Man U, Real. C'est des gars qui débarquent ici avec un bagage d'expérience en Rius. Tu le disais tantôt, c'est des gars qui savent comment être pro. C'est des gars qui savent comment gérer la pression et comment transmettre ça aux jeunes. Mais ça, c'est important d'avoir ce genre de joueur-là qui peut transmettre cette expérience-là. Pas juste sur le terrain, pas des joueurs nécessairement qui vont gagner. Et c'est un peu pour ça que j'étais content du retour de Laurent Simon avec le CF Montréal. Oui, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience et qui peut amener les jeunes à un autre niveau. Mais comment gagner la MLS? CF Montréal doit avoir 3DP. Et ces 3DP, je m'excuse, mais ils vont en avant du terrain, pas en arrière. Je me trompe-tu?
Puis pour vendre des billets aussi. Pour vendre des billets aussi, c'est une business. Hey, j'ai souvent entendu M. Saputo dire qu'il perd des 11 millions par année. À un moment donné, tu veux-tu vendre des billets? Est-ce que tu veux vendre des billets? Est-ce que tu veux que ça soit un beau spectacle? Mais si vous voulez que ça soit un beau spectacle, mais allez chercher des joueurs qui sont excitants, qui vont amener du monde dans les estrades, puis qui vont amener une ambiance alentour de l'équipe, puis qui va faire en sorte que l'équipe va vouloir peut-être gagner ou avoir un esprit gagnant. Ou avoir une attitude gagnante, parce que ça revient très loin, là, la dernière fois qu'on a vu un CF de Montréal stimulant à regarder. Et puis moi, je reviens à Drogba. Puis ça revient loin, là. Pour moi, ça revient loin. C'est les derniers moments que j'ai eu avec le CF de Montréal, où est-ce que j'ai suivi cette équipe-là, puis je me sentais vraiment attaché à cette équipe-là, parce qu'il y avait du beau football. Puis Drogba, naturopathie et tout le reste, ben, nous donner du beau football.
Et juste pour faire du pouce à ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire justement par rapport à l'expérience, si tu regardes du côté des Sounders de Seattle, avant que Nicolas Lodero arrive, c'était une équipe qui était un peu plus low profile, qui était quand même bon, mais qui n'était pas wow. Mais avec l'arrivée de Lodero, qui était quand même assez vieux, là, ça a comme transcendé l'équipe au complet. Et là, tu voyais que les résultats venaient par la suite. Puis tu voyais que.
Puis ils ont commencé à amener Dempsey aussi, l'ancien capitaine de l'équipe américaine. Ouais,
tu avais Dempsey. T'avais Obafemi Martins qui était là également, qui a fait une bonne carrière en Europe. Donc là, déjà là, ça fait trois gros DP qui amènent un peu plus de foot puis un peu plus d'engouement par rapport aux partisans. Et si tu regardes du côté plus jeunesse, si je prends le NYCFC qui ont allé chercher le next Neymar, comme on dit, à la personne de Thiago. Et puis il y avait un autre joueur aussi, un autre Brésilien qui est arrivé récemment qui s'appelle Thiago Andrade. Désolé, mon portugais n'est pas parfait, mais ça s'en vient. Mais c'est ça, justement, ces deux joueurs-là, c'est des joueurs qui sont super excitants. Puis tu vois déjà que leur rapport offensif est très, très visible du côté de NYCFC. Puis c'est des joueurs qui sont très excitants, justement. Puis par rapport à ça, ça amène un peu plus d'engouement par rapport à cette équipe-là qui avait beaucoup de difficultés au début de la saison. Donc, déjà là, des joueurs offensifs en tant que DP, c'est la résultat gagnante, selon moi, pour être champion de la MLS.
Parce que là, les trois DP chez le CF Montréal, on a Victor Wanyama, on a Kamal Miller, si je ne me trompe pas, ou Struna.
C'est Struna.
C'est ça.
Struna, Wanyama et...
Camacho?
Vous voyez, Camacho, les gars, il est là le problème.
C'est ça, c'est que des joueurs défensifs au final.
On n'est même pas capable de trouver le troisième DP. Tu sais, puis on couvre à toutes les semaines le CF Montréal. Fait que, tu sais, on amène demain un Giroud, un Atem Ben Arfa, puis quitte à ramener Piatti si on commence à manquer de fonds. Mais tu sais, cette équipe-là,
tu m'as dit pourquoi on ne va pas chercher un Altidore.
Moi j'embarque. Josie Altidore, Olivier Giroud, Atem Ben Arfa. Moi je pense que mis qu'on ouvre la salle Saputo, il est plein. Et tu sais, les gens vont embarquer. Parce que là,
C'est Mihajlovic, guys. C'est Mihajlovic, je pense. C'est Mihajlovic, le
ah, oui,
DP,
ça,
je pense.
Oui,
ah, okay.
Fait que, tu sais, on va peut-être perdre des matchs, mais ils vont être excitants au moins à regarder jouer. Et on va avoir de quoi pour se plaindre. Mais là, en fait, quand je regarde le pas le négatif, mais je regarde sur quoi qu'on veut construire au cours des dernières exécutions du CF Montréal, comment qu'on frapperait sur Mustapha Kiza? Le jeune, il arrive, il est titularisé en MLS. Tu sais, on peut-tu y donner des 20 minutes pour qu'il se prouve puis qu'il prenne de l'expérience? Mais moi, j'aime mieux le voir là sur le terrain que de le voir sur le banc, comme on a vu Chouanière au cours des dernières années. Il faut que ce gars-là prenne de l'expérience. Il va le prendre sur le jeu. Mais à partir du moment où tu mets Kiza titulaire sur le corridor latéral gauche dans un schéma tactique où tes deux latéraux sont des pistons très, très, très importants à la réussite de ton schéma, je ne suis pas sûr que tu aides Mustapha Kiza. Parce que moi, je pense que tu le mets sous le follow spot trop rapidement et c'est sûr qu'on va le critiquer. Est-ce qu'on a raison de critiquer Kiza qui est en développement? Moi, je pense que non. Mais si on aurait des joueurs comme Altidor, comme Giroud, comme Ben Arfa, ben là, c'est eux autres qu'on critiquerait et on aurait raison de les critiquer. Mais critiquer sur un jeune en processus,
ça vaut pas la
difficulté,
peine.
Mais on ne peut pas faire d'autre chose. c'est que ça.
En effet, puis je pense que si tu mets Ben Arfa, qui est un joueur qui est super excitant, un vrai dribbleur, ça ferait un petit peu rappeler un Nacho Petit qui était capable d'enflammer la foule avec quelques petits gestes techniques. Donc forcément, l'engouement sera encore plus présent. Puis je pense que même les partisans, même à la limite, les médias traditionnels en parlent un peu plus parce que c'est quand même un grand nom. C'est sûr que là, les billets commenceraient à flouer. Puis là, tu aurais Joey qui aurait été un peu plus content. Donc là, ça aurait été ça a été plus positif selon moi. Mais encore une fois, comme on le crie souvent dans le podcast et même ailleurs, je pense que ça prend un joueur offensif qui est capable d'alimenter la foule montréalaise parce qu'on aime ça, nous, les Montréalais, des joueurs qui sont spectaculaires. Si tu regardes au hockey, si tu regardes au soccer aussi, avec Drogba et Piatti, même Justin Mapp qui était capable d'animer l'attaque montréalaise de son côté droit. Donc déjà là, ça, c'est un plus pour l'équipe. Et je pense que à l'avenir, peut-être se détacher un petit peu plus du plan qui était de axer plus sur la jeunesse, mais aller chercher des joueurs qui sont capables, peut-être pas des joueurs en fin de carrière, mais des joueurs qui sont comme dans la fleur de l'âge, qui ont un beau potentiel offensif, qui pourraient animer le couloir, même l'attaque du CF Montréal. Donc, moi, je pense que c'est ce que ça prend pour cette équipe-là, pour animer les passions.
Et surtout sur une base régulière.
Surtout.
C'est la constance. Parce que là, on a des joueurs qui souvent connaissent 2-3 bons matchs. Après ça, on ne les voit pas pendant 6-7. Reviennent 2 matchs. Tu sais, on l'a vu avec Boyan. Boyan nous a donné des beaux flashs. Tyder nous a donné des beaux flashs. Mais, tu sais, rien sur une base constante comme on pourrait s'attendre d'un joueur de premier plan. Fait que ça aussi, je pense que c'est un peu le problème. Mais là, c'est de savoir, tu sais, le problème, est-ce que c'est l'entourage du club, la formation du club, le fait qu'on bouge souvent le schéma? Tu sais, qu'est-ce qui explique que Maxi Urruti produise autant cette année versus presque rien la saison dernière chez le CF Montréal?
JF, tu poses une bonne question puis tu amènes un bon point avec Maxime Urruti. Des fois, c'est juste la confiance. Des fois, c'est juste ça. Tu fais confiance à un joueur, l'entraîneur fait confiance à un joueur et ça peut changer tout dans son jeu. Puis je sens qu'à Houston, on fait confiance à un Urruti. Tandis qu'à Montréal, on ne lui faisait pas totalement confiance.
Ben non. Et tu vois, je pense que c'est un peu ça aussi, Rius, le problème avec Romel Kyoto. La saison dernière, combien de fois il a dit « Je suis fier de jouer pour Thierry Henry. J'ai joué sur la gouverne de Thierry Henry. Je me sens bien avec Thierry Henry. » Mais là, soudainement, il n'est plus là. Et Romel Kyoto, il est blessé. Il tarde à revenir de blessure. Il joue pas. Ça y tente pas. Fait que je pense qu'il a perdu un peu ce désir-là et ce rapport de confiance-là qu'il avait avec l'entraîneur-chef. Et tu sais, je le voyais cette semaine justement sur Instagram mettre des photos comme de quoi qu'il s'ennuyait de Thierry Henry. Mm-hmm. Tu sais, je pense que ça veut dire énormément. Mm-hmm. Fait que c'est peut-être ça le problème aussi chez le CF Montréal.
Écoute, je regarde la liste de l'impact, excuse-moi, CF de Montréal, GF. Une équipe, comme tu l'as dit tout à l'heure, très jeune.
Oui.
Et dans cette équipe-là, pas beaucoup d'expérience de la MLS internationale et de la MLS aussi. Ouais. Mathieu Chouanière, qui était avec l'équipe de Montréal depuis 2014, n'a pas eu beaucoup de temps de jeu.
Non.
Donc, on a une équipe en ce moment qui est fébrile et qui n'a pas vraiment un leader qu'on peut vraiment se référer à cette équipe. Dans le passé, on avait un Nacho Piatti qui était comme leader qu'on pouvait référer. On avait un Drogba, on avait un Divayo, on avait un... Tu sais, on pouvait les nommer. On avait un Patrice Bernier. Aujourd'hui, guys, même nos capitaines, je ne peux pas dire que c'est les leaders de cette équipe.
Non, c'est vrai.
Je ne peux pas dire que c'est les leaders de cette équipe. Donc, pour moi, il y a un problème déjà au niveau du leadership. Donc, imaginez-vous quand ils sont dans des adversités difficiles sur le terrain. Qui prend le leadership? Je ne vois pas. On a parlé souvent de Jeff. On a parlé souvent de Wanyama. Cali, en ce moment, je suis pas trop satisfait à 3 millions là, avec un Wanyama. Tu es d'accord, Richard?
Ouais, 100%. Puis je pense que même au niveau leadership, tu peux quand même prendre un Kamal Meulux qui est un joueur style MLS qui a quand même connu des bonnes saisons du côté de Orlando. Ça, je pense que ça fait partie des joueurs qui sont quand même qui ont du caractère. Mais oui, c'est vrai, le fait qu'on soit jeune, je pense que c'est comme un manque, peut-être au niveau de l'expérience du côté des jeunes joueurs du CF Montréal, parce que outre le fait qu'on a des bons joueurs qui sont quand même très, très bons techniquement et tactiquement, je pense qu'au niveau mental, même au niveau du leadership, quand ça va mal, qui tu vas te retourner? Parce que c'est sûr qu'à part Piet ou Wanyama ou même Carmel Miller, peut-être le coaching staff, mais encore là, je pense que ça prend plus que ça que se tourner sur ces joueurs-là. Donc forcément, je pense que outre le fait de se projeter juste sur l'avenir avec les jeunes joueurs, ça prend quand même un bon mélange d'expérience pour aller soit chercher de la coupe en MLS ou même participer aux séries, parce que tu sais jamais à quoi t'attendre, parce que les problèmes vont arriver, que ce soit même maintenant ou même plus tard durant la saison. Donc, mieux vaut que tu fasses face à l'adversité dès maintenant pour par la suite être prêt pour la prochaine étape qui est les séries éliminatoires si on se rend là-bas. Mais je pense que le fait qu'on manque de leadership, je pense que ça fait mal, parce que les jeunes joueurs sont très, très bons. Il y a beaucoup de potentiel du côté de CF Montréal, mais les joueurs, vraiment, il manque un peu plus de leadership pour entourer ce genre de jeunes joueurs-là, en fait.
Il manque de leadership et Arius, comme tu, ben, on en a parlé toutes les trois tout au long du show. Tu sais, si on regarde ça, là, ça prend de l'expérience MLS pour gagner, je pense.
Ça prend de
l'expérience. Ouais, on n'en est pas énormément. Ça prend des joueurs qui vont calmer un peu cette jeunesse-là. On n'en a pas énormément. Et les joueurs qui sont là, est-ce qu'ils peuvent, Arius, être trop en compétition? On parlait tantôt que ça prend une force mentale. Là, j'ai l'impression que si on fait un 11 type, on a la défense, on sait qui va jouer en défense. On sait qu'il va être nos deux milieux avec Piet et Wanyama. Mais tout le reste, là, je pense qu'à peu près n'importe qui pourrait dire n'importe quoi, puis ça serait défendable. Donc, le fait que chaque gars doive se battre à tous les soirs pour leur poste, est-ce que ça peut nuire aux performances? Parce que là, le joueur, il embarque. Puis tout ce qu'il veut, c'est ne pas débarquer. Il veut pas que Nancy lève le bras et qu'il dise « Hey, Tipit, viens-t'en sur le banc, là, c'est pas de même. » Fait que, il veut pas commettre d'erreur, il veut prendre sa place, il veut pas se faire dépasser par un autre joueur. Donc ça, est-ce que ça peut jouer aussi dans ce fait qu'on manque de finition en avant?
Définitivement, parce que des fois, le joueur, ben ça si l'entraîneur l'enlève, par exemple, on va prendre l'exemple, tu sais, on en a souvent parlé. Kyoto, Toy, ou bien, je ne sais pas c'est qui l'autre attaquant, Hurtado.
Johnson.
Johnson, il sortait toujours à la 60e minute. Voilà. À partir de là, le message que tu envoies à ton attaquant, c'est comme, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance que tu vas pouvoir me gagner le match. J'ai pas confiance que tu vas pouvoir terminer ce match-là. C'est ça que tu envoies à tes attaquants numéro 1, si c'est Johnson ou Kyoto. Et tu comprends? À partir de là, ben, ça vient un peu aussi, si ces gars-là ont un peu de leadership ou un peu de caractère dans le vestiaire, ben là, ça vient jouer aussi sur l'ambiance, sur les émotions, sur comment l'équipe va se présenter. Puis, tu as bien mentionné aussi le côté compétitif. Ben là, si c'est à chaque... c'est bon qu'il faut qu'il y ait un côté compétitif, mais si à chaque match, on n'est pas sûr, on n'est pas constant dans notre alignement partant, c'est difficile aussi d'aller chercher une certaine constance. C'est une certaine constance au niveau du résultat.
Parce que, tu sais, si demain matin, je vous demande, là, ben, même
c'est qui les 11 partants?
Qui est l'ailier gauche du CF Montréal? Qui est l'ailier droit? On le sait pas, là.
Je peux pas te le dire.
On le sait pas. Fait que,
on le sait pas.
Ça, c'est un problème dans une équipe quand tu n'es pas capable de définir là, clairement qui va où. Pis,
définitivement.
Moi, j'ai rien contre le fait que, mettons, on dise, bon, Hurtado va à droite sur une base régulière et Torres, par exemple, sera sa doublure. J'ai pas de trouble avec ça. Qu'on dise, Sounoussi Ibrahim, c'est un joueur avec énormément de potentiel. Donc, à gauche, on a Romel Kyoto, puis Sounoussi Ibrahim va prendre ce qui reste. Fine. Mais sois constant et vas-y avec ça. Et amène-moi pas Kyoto à gauche, puis le match d'après Torres, puis le match d'après Mihailovic, puis le match d'après, tu sais, comprenez-vous,
à un moment donné, ça finit plus.
Ça casse le rythme au final, ça casse le rythme, parce que ça abrime un peu la progression du joueur, parce que c'est sûr que sur une saison, tu vas devoir faire face à de l'adversité, mais si tu restes vraiment stable sur ton schéma tactique, tu vas pouvoir créer, tactique. Tu vas pouvoir corriger certaines erreurs.
Chimie. Là, ouais, c'est une tactique, puis il va avoir une fluidité dans le schéma tactique aussi des
joueurs.
Exactement. Dis, Richard. Ouais.
C'est ça. Donc, je pense qu'il faudrait que tu imposes déjà ton 11 déjà partant. Par la suite, avec la saison qui va s'amorcer avec les erreurs qui vont survenir, là, tu vas pouvoir faire quelques petits réajustements par la suite pour essayer de contrer ces erreurs-là. Parce que si tu changes tout le temps de gauche à droite, ça sert à rien parce que tu vas comme brimer un peu plus la progression du joueur et même un peu plus... peut-être pas la chimie, on va dire, entre parenthèses, parce que c'est quand même gros, là, aussi, changer un attaquant numéro 1 pour un attaquant numéro 2 qui n'a pas été très, très bon, là. Donc,
exactement. Et, tu sais, on va être franc, là. Un joueur comme Sounoussi Ibrahim qui arrive, qui a un fort potentiel, mais il sait qu'il ne s'en vient pas avec le CF Montréal pour jouer 42 matchs, 90 minutes par match. Donc, si on lui dit, regarde, toi, tu es la doublure de Romel Kyoto. Romel Kyoto est blessé, tu vas jouer. Romel Kyoto est vraiment pas dans son match, on va le sortir. Ou encore, on est en avance 4-0, tu auras des minutes.
On le repose, on fait jouer les autres,
exactement.
C'est ça, exact.
Comme la France a fait cette semaine. en reposant ses bons joueurs en fin de match, on voit... non, mais sans farce, c'est ça. Donc, tu sais, Sounoussi comprendrait qu'il va gagner ses minutes, puis c'est normal à son niveau de développement qu'il gagne ses minutes. Ouais.
Définitivement. Écoute, JF, selon moi, si le CF de Montréal veut être une équipe aspirante pour la Coupe MLS, il faut avoir un bon gardien.
Oui.
Il faut avoir une des meilleures défensives de la Ligue.
Je pense qu'on fait pas mal. Présentement, là, sincèrement,
on fait pas mal, puis Diop fait en sorte que il nous sauve certains matchs des fois, OK?
Même Pantémis aussi, très, très bon.
Même Pantémis aussi fait quelque chose. Et je pense qu'il nous faut un très bon milieu offensif puis un très bon attaquant offensif.
C'est donc, ce qui reste à régler.
C'est ce qui reste à régler. Mihailovic, il amène quelque chose, oui, c'est bizarre, mais c'est pas encore le type de joueur qui va prendre la balle puis qui va faire... La différence, puis qui va garder le momentum du match, qui va faire la différence dans le match. Là. C'est pas encore ce style de joueur-là. Donc, il nous manque quelqu'un au milieu de terrain pour constamment fournir des ballons à nos attaquants. Puis il nous manque un attaquant numéro un constamment qui nous met des buts à chaque deux matchs ou à chaque match.
C'est mm-hmm. ça, exactement. Cette constance-là, c'est ce qu'il faut régler.
Cette constance-là.
De devant le milieu. Parce que dans le fond, si je pars du derrière, là, Diop, Pantémis, moi je suis à l'aise. Notre défensive, si je prends la défensive à 3, je suis à l'aise. Piet, Wanyama, milieu défensif, j'ai pas de trouble avec ça. Broguillard.
C'est passable. C'est pas ça pour ça. C'est pour moi,
ça,
c'est
exactement. Broguillard dans le couloir droit, ça fait le travail.
Ça fait
couloir gauche, mais là, il faudrait peut-être régler latéral gauche. C'est peut-être un petit peu plus
difficile. Mais je pense que Kizza, le fait qu'il était blessé au début, mais si Kizza n'était pas blessé au début, je pense qu'il aurait fallu continuer avec Kizza, qui était un ailier gauche naturel.
En progression.
En progression, qui est un latéral gauche naturel. Oui, Lassie Lapalainen aussi.
Qui vient de rejoindre l'équipe, fait que on devrait le voir bientôt.
Lui aussi. Donc, lui a eu une belle expérience de l'Euro. Donc, j'espère qu'il va amener cette expérience-là avec.
Oui, je pense que ça va aider.
Oui, définitivement.
Ça va faire le tour pour ce soir. Je voulais qu'on tourne les matchs, mais là, finalement, ça fait déjà 1h20, le podcast avant.
1h20, on s'ennuyait, Jeff.
C'est ça, fait que ça a super bien été. Fait qu'on va revenir. La semaine prochaine, on va recommencer à faire la tournée des matchs, voir là, qu'est-ce qui retient l'attention. On va suivre également, semaine prochaine, on va se parler de l'Euro, parce que là, on avance dans le tournoi, puis on va regarder ça. La Belgique va l'emporter, les gars. Vous pouvez le noter aujourd'hui.
Moi, je l'ai noté, la Belgique. Moi aussi, j'avais dit la Belgique.
Pas moi.
Richard,
Richard, c'est qui?
Allemagne.
Moi, c'était la France, mais écoutez...
Bye-bye, Richard!
Mais... mais attendez, je vous dis l'Angleterre. Attention à l'Angleterre, parce que ça arrive à la maison, comme on dit.
Ah oui, moi,
je vous le dis.
Non, je pense que c'est le temps pour les Diables Rouges.
Je pense
D'être reconnus sous l'international, je pense que oui.
On va le voir, on va le vivre, là, mais... Je pense que ça ressemble à ça. Et Italie font pas mal non plus. Allemagne fait bien. Fait que ça va être des bons matchs. Ça va être difficile.
Oui, vraiment.
Aller
vraiment.
Jusqu'à la fin. Hey, merci les boys.
Hey, un gros merci à toi, Jeff.
Fait que on va regarder, là. Je vais vous consulter les deux avant. mais on va peut-être garder ça le mardi. Je pense que la rétention est mieux que le dimanche.
C'est parfait.
Et, fait que on va regarder ça, puis tu sais, on se le cachera pas. On va essayer de s'adapter aussi à l'horaire du Canadien de Montréal pour essayer d'accommoder tout le monde. On sait qu'il y en a beaucoup qui les écoutent. Fait qu'on va fitter avec tout ça.
Parce que ça risque de prendre un autre 30 ans après pour qu'ils reviennent à la finale de la Coupe Stanley.
Ça se peut long des fois entre deux.
C'est ça.
Hey, merci les boys.
Merci les gars.
Passez une bonne soirée. On se retrouve mardi prochain. Bye bye.
Salut boys. Bye.